de là pour faire des avions furtifs qui arrivent à échapper au radar, alors qu'un simple Boeing 777 y arrive tout seul, tranquillement, et absolument sans aucun problème. Il y a un truc que je comprends pas, là.
Ce matin, il y a des militants de Greenpeace qui ont réussi à pénétrer la centrale nucléaire de Fessenheim. À cette occasion, il y a eu un représentant du personnel qui les a traités de terroristes. Bon, bah, vu comme ça n'a pas l'air si compliqué que ça de rentrer là-dedans, si éventuellement il y a des vrais terroristes qui rentrent pour autre chose que montrer des banderoles, ça m'étonnerait qu'à cette occasion, ils les traitent d'écolo. Pensez pas. Bon, allez, c'était Vano de Brest. Bon courage à tous. Salut.
Bonjour Mermet, bonjour les AMG. Alors, j'ai bien écouté ton émission hier, super, super intéressant, il y a un beau monde, tout ça. Bon, moi je vote plutôt très à gauche, donc du coup très instructif. Et là, la petite surprise dans les deux dernières minutes, qu'est-ce que j'entends au meeting de cette chère Marine? La musique des Daft Punk, Get Lucky, incroyable. Alors deux choses l'une, soit Marine, elle a gentiment demandé aux Daft Punk, bon, ce dont je doute, soit elle s'est approprié ce tube interplanétaire pour sa petite campagne. Allez Daft Punk, lucky you. Salut les AMG, Jean de Paris.
Montalbanais, Montalbanaise, le Café Repère de mars aura bien lieu ce jeudi 20 mars au Café Lézard Pub, 8 rue Gillac. Cette fois, on innove, et oui, on en est capable, avec une démonstration d'impression 3D. C'est à Montauban, c'est jeudi, qu'on se le dise et répète. Salut!
Bonjour Laurent, 46 ans de Nantes, chauffeur routier. Je voudrais dire un grand merci à Vladimir, mais c'est dommage qu'il s'arrête à la Crimée. Il pourrait ressortir ses bons vieux rouleaux de barbelés et remboîter dans son pas toute la Pologne, Roumanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, et qu'il nous foute la paix, qu'on retrouve notre métier, notre vie, sans tous ces clochards de l'Est. Merci Vladimir.
Ben dis donc, sympa quand même, la reconstruction du rideau de fer, quoi, en somme. Et pourquoi pas, tout ça nous rend un peu morose, hein. Ouais, franchement, il y a des jours. Mais j'ai un remède à la morosité, un truc qui peut vous aider à remonter sur le cheval si ça vous arrive. C'est l'idée que tout n'est qu'idée. Ouais. L'idée que tout n'est qu'idée. La vie, le monde où nous sommes, les rues, les paysages, et même les visages, et même les poisons, les fumées, les musiques, tout ça, c'est des idées. Il y a bien sûr des hasards, il y a des nécessités, il y a des désirs incontrôlables, il y a des croyances imbéciles, mais avant tout, il y a des idées. Même dans toutes ces fatalités, les idées sont là pour interdire, pour célébrer, pour dominer. À la base, il y a des idées. Et c'est finalement assez rassurant parce que ce qui a été fait avec des idées peut être changé par d'autres idées. Il n'y a pas un ordre définitif des choses. L'ordre est provisoire. L'ordre, c'est ce qu'il y a entre deux désordres. Et le désordre, c'est les idées. Et les gardiens de l'ordre, ceux qui ont intérêt dans l'ordre tel qu'il est, eh bien, s'arrange pour le maintenir, pour maintenir l'ordre par la violence, toute forme de violence, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit symbolique. L'important, c'est de faire peur. Et c'est la peur qui nous rend morose, qui fait de nous ces animaux tristes, si tristes. Quelquefois, je vous raconte tout ça pour vous présenter cette heure qu'on va passer ensemble, une heure ou presque, avec Spinoza ou presque. Aujourd'hui, on a deux invités. Yvan Segré, qui est un philosophe, qui est un talmudiste franco-israélien, qui était venu nous voir en 2009 dans la basse J'y suis pour un livre très intéressant qui avait fait un certain retentissement, La réaction philosémite. Et puis, aujourd'hui, il publie Le manteau de Spinoza. Il va nous expliquer pourquoi ce titre, Le manteau de Spinoza... Spinoza, ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu parler, tout le monde cite un petit peu Spinoza. C'est très joli de citer Spinoza. Il faut rappeler que ce philosophe du XVIIe siècle, vivant à Amsterdam, fut excommunié
en 1656 à l'âge de 24 ans. Il fut condamné pour athéisme. Il fut excommunié de la synagogue, du judaïsme. Et depuis, il est considéré comme un ennemi du judaïsme par certains. Il y a un courant comme ça tout au long de l'histoire depuis qui le considère comme un ennemi des juifs. C'est minoritaire bien évidemment, mais c'est tenace. Et ça vient jusqu'à nos jours avec un grand intellectuel français qui, dans un livre récent publié en 2013, intitulé « Le sage trompeur », dit « Sa polémique anti-juive fraya les voies à l'antisémitisme rationaliste ou laïque. Les temps modernes peut être le plus redoutable qui soit. » C'est Jean-Claude Milner qui parle ainsi. Alors, voilà, contre cette affirmation et cette accusation, Yvan Segré publie ce livre « Le manteau de Spinoza » pour une éthique hors la loi. C'est une heure de philo qu'on va passer, hein, il faut s'accrocher, mais ça vaut le coup à cause des idées, à cause de ce que je vous ai dit. Tout commence par des idées et tout change par les idées. Yvan Segré n'est pas tout seul, il est avec Éric Hazan. Vous connaissez Éric Hazan, c'est l'éditeur de La Fabrique, qui va lui donner un petit coup de main pour cette heure que nous passons ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Le gouvernement a pris avec un peu de retard une décision limitant la pollution automobile pour un jour. Mieux que rien, diront les asthmatiques. Mais ira-t-il jusqu'à interdire sur le territoire le passage du rallye automobile européen des voitures de sport, conduit par une bande d'attardés mentaux qui, au volant de leur Ferrari, Bugatti ou autre Aston Martin, ne sont capables que de polluer l'atmosphère et les esprits. On verra bien. Allez, salut.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les AMG. C'est pour annoncer le café repère de Salon de Provence dans le 13. On mettra en comparaison Dieudonné et Soral. C'est à la Casa Palabre, rue Pontis, à Salon de Provence, de 18h à 20h. Et vous pouvez rester pour dîner, ça serait super. À bientôt, ciao.
Je voulais alerter Daniel Mermet sur une société qui s'appelle Space de Diffusion, qui distribue des annuaires des passes jaunes, pour laquelle j'ai travaillé pendant presque 22 mois pour des salaires de misère. Donc un article est paru dans le journal La Montagne, édition Creuse, Guéret, le 28 février 2014. Et en fait, mon souhait, c'est d'alerter tous les distributeurs qui, comme moi, ont été lésés par cette société, de façon à ce qu'ils me rejoignent et qu'ils entament aussi une action au niveau des prud'hommes pour que leur salaire réel leur soit payé. Merci, au revoir.
Eh bien nous, c'est très simple, on est un petit théâtre dans le sud du Gard, à Saint-Gilles, et on organise une veille républicaine ce vendredi, l'avant-veille des élections, vendredi 21 mars, donc c'est rendez-vous à 18h30, rue Porte des Maréchaux, à côté de l'abbatiale. On espère que vous viendrez nombreux pour montrer votre doute, votre peur et votre engagement. Merci à toute l'équipe pour le relais de cette information. Au revoir.
À main nue, en imaginant son mari pétrissant la pâte à main nue, la boulangère, seule dans son lit, se dit que la vie est mal foutue. Salut.
Jean-Claude Milner, bonjour.
Bonjour.
France Culture.
Vous nous proposez un court traité de lecture d'un passage du traité théologico-politique.
27 mars 2013.
Vous montrez qu'il y a plutôt une forme d'indécence. Vous essayez de mettre en valeur les implicites, notamment l'idée que le bon destin pour les juifs, ce serait l'assimilation. C'est l'idée que finalement, il suffit d'interdire le judaïsme et de donner les mêmes droits aux juifs, et alors le judaïsme disparaîtra définitivement.
Non, je pense qu'il faut dire deux choses. Je pense que Spinoza pense que le non-juif peut disparaître complètement, sans laisser de traces. Et le deuxième point, c'est qu'il pense que cette disparition est souhaitable. Il pense qu'elle est souhaitable parce qu'il pense que, d'un côté, les juifs ont été maintenus dans l'existence par la haine qu'ils suscitaient, mais qu'en retour, tant qu'ils continuent d'exister comme avec un nom affiché, la machine de la haine sera en route. Donc c'est pas simplement l'assimilation, ça va plus loin.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Éric Hazan et Yvan Segré, le manteau de Spinoza pour une étude hors la loi. La première chose qu'on apprend avec ce livre, ou qu'on nous rappelle, c'est que Spinoza avait un trou à son manteau. Il faut savoir que Spinoza avait un manteau, et il faut savoir qu'il avait un trou dans son manteau, et qu'au fond, tout ce livre tourne autour de ce trou. Parce que ce trou avait été provoqué par un poignard. Et pourquoi avait-on tenté de poignarder Spinoza? Eh bien, ces 258 pages répondent, c'est comme un polar, quoi. Hein, on va répondre à cette question que nous nous posons. Yvan Segré, on s'est vu il y a quelques années dans cette émission, Modeste et Génial, où vous aviez publié un bouquin qui ne l'était pas moins, La réaction philosémite, chez Ligne, La réaction philosémite ou La trahison des clercs. Vous étiez donné un mal fou, mais très précis, en analysant, en étudiant et en analysant toute une série de textes et de livres qui tournaient tous autour de la même question, j'allais dire obstination, qui consiste à accuser, à porter des accusations d'antisémitisme avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, à commencer par ceux qui osent critiquer la politique israélienne, mais pas seulement. Et vous nous aviez fait comprendre, à travers ce livre, que la démarche de ces auteurs, ces intellectuels et ces militants n'était pas tant de lutter contre l'antisémitisme, mais, ni même de défendre le sionisme, mais de déstabiliser ou de décrédibiliser le camp d'en face, c'est-à-dire le camp de la gauche critique ou le camp progressiste, on va dire, ce camp que vous avez critiqué, que vous avez analysé si soigneusement, qui peut être rangé sous l'étiquette néocons, dans les cas les plus corrects, ou néoréac, dans le langage le moins correct. C'est un peu ce que j'avais retenu de votre travail. Vous êtes d'accord avec ce...
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est-à-dire que le livre « La réaction philosémite », c'était de nommer, qualifier de réactionnaire ce courant de pensée. Et donc c'était une approche sur des textes contemporains idéologiques. Là, l'ouvrage en question, Le manteau de Spinoza, aborde les choses à un niveau plus fondamental, à un niveau plus philosophique, mais il y a des ponts.
Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre avocat, en la personne d'Éric Hazan, soi-même, qui est l'éditeur de votre bouquin, que les auditeurs connaissent bien et aiment beaucoup. Éric Hazan, pourquoi avoir demandé ce livre à Yvan Segré? Vous ne l'avez peut-être pas demandé, c'est peut-être lui qui vous l'a apporté.
Je ne me souviens plus. Ça fait longtemps et j'ai plus très bien en tête qui est venu voir qui. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, par rapport à Segré, Spinoza, c'est vraiment un cas intéressant. Parce que quand nous étions jeunes, Daniel Mermet et moi, il n'y a pas longtemps, tous les intellectuels juifs étaient du côté des opprimés, étaient du côté de la révolution. Quasiment tous.
Les judéo-bolcheviques, c'était...
Mais c'est ça, quasiment tous. Et puis, il y a eu un grand virage qui a pris du temps, et aujourd'hui, on peut dire que beaucoup d'intellectuels juifs sont passés de l'autre bord, du bord de la réaction la plus classique. Et Spinoza, pour ça, c'est un marqueur. Spinoza avec Marx, avec Freud, qui était porté au pinacle par ces... intellectuels juifs qui étaient à la gauche prolétarienne, qui étaient dans les milieux trotskistes, qui étaient dans les suites immédiates de mai 68, ils étaient très nombreux. Ceux-là ont disparu, soit ont tourné leur veste, soit sont devenus vieux. Et ceux qui leur ont succédé, ceux-là, pour eux, Spinoza, c'est le mal. Mmh. Et donc c'est un marqueur intéressant, en dehors du fait que c'est un grand philosophe, c'est un marqueur politique tout à fait intéressant. Et il me semble me souvenir que quand on a décidé à la Fabrique de prendre ce projet, c'était pour cette raison en grande partie.
Comment présenter Spinoza en quelques mots?
En quelques mots, Spinoza, il a C'est un philosophe rationaliste, cartésien pour une part essentielle, bien qu'il y ait aussi une distance de Spinoza à l'égard de Descartes. Mais en tout cas, c'est un cartésien au sens où c'est un pas de plus dans le rationalisme moderne, dans l'affirmation d'un rationalisme moderne. Et la singularité de Spinoza, c'est qu'il a été présenté aussi comme un philosophe juif, dans la mesure où il a grandi dans la communauté juive d'Amsterdam. Il a eu une éducation traditionnelle. C'est un bibliste depuis l'enfance, et qu'il a rompu avec la communauté juive d'Amsterdam, avec le judaïsme orthodoxe, traditionnel, qu'il a été excommunié.
C'est ça, oui. D'une façon assez violente.
Les textes de l'excommunication sont très violents, mais ce qui est intéressant, c'est que chez Spinoza, il est exclu de la communauté juive. Il est également, en quelque sorte, excommunié de la communauté des doctes du XVIIe siècle, qui mm-hmm. est une communauté fond chrétienne à l'époque. Et lui s'affirme en tant que philosophe. C'est ça le nom qui qualifie Spinoza, c'est un philosophe. Alors ce qui est intéressant, c'est en ça qu'on peut dire, non pas qu'il est théologien, mais il a écrit un livre, le Traité théologico-politique, dans lequel il analyse la Bible. Donc il a eu une lecture de la Bible. Ce qui est assez rare dans la tradition de la philosophie, d'avoir un philosophe comme ça qui a écrit sur la Bible. L'intérêt de Spinoza aussi, c'est que dans l'histoire, il va se trouver que la question de son excommunication, qui est un fait historique en tant que tel, qui pour une part pourrait être anecdotique, mais qui va avoir une grande importance par sa dimension symbolique et par le fait que l'accusation de trahison va être ensuite reprise, et notamment au XXe siècle, et par des philosophes comme Hermann Cohen ou Léo Strauss ou Emmanuel Levinas, qui vont en quelque sorte reprendre à leur compte cette accusation de trahison et justifier l'excommunication. Et là, ce qui devient tout à fait intéressant et étonnant, c'est qu'ils reprennent une position qui était celle d'un obscurantisme théologique qui était à la fois juif et chrétien.
L'histoire du coup de couteau dans le manteau, c'est une histoire vraie ou c'est un mythe ?
C'est une histoire vraie, semble-t-il. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est sa dimension symbolique que Spinoza a utilisée en tant que telle, puisqu'il a gardé ce manteau troué. Le trou devenait le signe, le symbole de quelque chose. Et ce symbole, me semble-t-il, c'est la haine que suscite l'esprit libre qu'était Spinoza et la haine que suscite un rationalisme émancipateur.
Oui, il faut peut-être, dans son temps, au XVIIe siècle, nous dire ce que c'était que la raison, que le rationalisme.
Alors, au XVIIe siècle, donc, ça c'est l'héritage de Descartes, le rationalisme, c'est la rupture avec la théologie. C'est en ce sens-là, c'est-à-dire une liberté intellectuelle et une capacité rationnelle et de connaissance qui s'émancipe du joug ou de l'influence des églises, au pluriel, et donc du dogme. Et on va trouver chez Spinoza, dans le traité théologico-politique, finalement, en regard de Spinoza qui, lui, est le philosophe comme esprit libre et comme affirmation d'une rationalité émancipatrice, il va poser deux figures antagoniques qui sont d'une part le dogmatique et d'autre part le sceptique. Et ça, ce dispositif est très intéressant parce que je crois qu'il est très éclairant jusqu'à aujourd'hui.
Zemer shel ahava, zemer shel ahava. On continue avec Yvan Segré et Eric Hazan. Alors, ce que disait Eric Hazan, c'est la place que Spinoza occupe, ou du moins la référence qu'il constitue aujourd'hui sur la scène intellectuelle, et vous attaquez un certain nombre d'intellectuels contemporains qui prennent Spinoza comme une figure de l'antijudaïsme et quasiment Spinoza comme un précurseur d'Hitler.
Oui, alors, c'est vrai que ce que disait Eric Hazan, c'est ce retournement, ce basculement entre une intellectualité juive progressiste, émancipatrice, et puis qui, à notre époque, paraît être finalement le chef de file d'une certaine idéologie réactionnaire. Alors c'est vrai que l'intérêt de notre projet était à la fois de travailler sur Spinoza, parce que à l'origine de ce projet que nous avions, c'était l'idée aussi de témoigner d'un judaïsme émancipateur en opposition avec un judaïsme réactionnaire. Ça, c'est le premier point que je crois intéressant et très important. C'est que ceux qui accusent les intellectuels au XXe siècle, philosophes juifs ou qui s'alimentent de la tradition juive, vont présenter Spinoza comme un traître et vont justifier l'excommunication à partir d'une position qui est finalement une position dogmatique. C'est-à-dire l'idée que le judaïsme est un corps de doctrine constitué et que s'en écarter, c'est une trahison. Alors ça, c'est une position dogmatique. Or, la position de Spinoza, comme rationalisme émancipateur, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer qu'au fond, elle est fidèle à la tradition hébraïque telle que moi, je l'étudie et telle que moi, je me la réapproprie. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer à l'intérieur du judaïsme l'antagonisme entre un judaïsme réactionnaire et un judaïsme émancipateur. Et je crois que ça, c'est vrai également, évidemment, dans le cadre du christianisme et dans le cadre aussi de l'islam ou de tout autre corps de doctrine constitué. Et donc, ça modifie l'approche, puisque ça nous permet de sortir, finalement, de catégories qui sont dogmatiques.
Tout ça en passant par le judaïsme, en passant par le Talmud, en passant par l'étude des textes de base de la culture juive.
Alors, dans mon cas, oui, j'ai étudié longtemps la Bible et le Talmud. Alors, dans ce livre, j'étudie d'abord principalement Spinoza, mais je montre, ça c'est le cheminement dans l'ouvrage. Dans la deuxième partie, j'oppose Spinoza à Maïmonide, puisque Spinoza lui-même cite Maïmonide pour s'y opposer autour de la question de la loi. Et je m'efforce de montrer que Spinoza retrouve, à travers sa propre philosophie et sa propre analyse de certains textes fondamentaux de la Bible, il retrouve une lecture qui me paraît être la lecture pertinente et intelligente de ces textes, d'où le paradoxe que celui qu'on accuse d'être un traître s'avère être, au final, fidèle à la tradition originaire. Alors, cette question de la trahison et de la fidélité, elle pose une question fondamentale, qui est, qu'est-ce qu'être fidèle ? Et encore une fois, on retrouve la question d'une fidélité dogmatique, comme si un corps de doctrine était constitué de manière inamovible, et qu'il suffisait d'y rester fidèle pour être fidèle. Ça, c'est une position dogmatique. Et il y a une position émancipatrice, qui est que si le cœur d'un enseignement, c'est la question de l'émancipation. Alors, être fidèle suppose une pensée en mouvement. Il y a une formule d'Alain Badiou dans L'être et l'événement qui est pour moi très importante. Il dit « La loi d'une fidélité n'est pas fidèlement discernable. » Donc la loi d'une fidélité exige, pour continuer, d'être créatif, d'être inventif. Et je crois que l'inventivité rationaliste de Spinoza, la manière dont il va organiser les intuitions qui sont les siennes, rejoignent sur l'essentiel les textes de la tradition hébraïque tels que je les étudie.
Est-ce qu'on ne trouve pas la même chose dans le christianisme ? On peut, dans le christianisme, à partir des mêmes évangiles, avoir des interprétations tout à fait antagonistes. On peut avoir, d'une part, une église progressiste, je pense à l'église d'Amérique latine, par exemple, et puis on peut avoir une église complètement réac, comme celle qu'on voit aussi en Amérique latine, je pense à l'Argentine.
Absolument. Et c'est vrai également dans le cas de l'islam.
Bien sûr.
Et c'est d'autant plus vrai que ce qui devient intéressant, c'est de ne plus se situer dans des catégories dogmatiques, dans des oppositions entre judaïsme, islam, christianisme. Mais ce qui devient intéressant, justement, c'est de resituer ces antagonismes intérieurs à un propre corps de doctrine pour montrer à partir de là les convergences et les véritables solidarités entre différentes identités et montrer également où se jouent les véritables antagonismes. Et l'exemple de la théologie de la libération est d'autant plus intéressant qu'évidemment l'antagonisme que ça fait jouer entre judaïsme émancipateur ou christianisme émancipateur ou islam émancipateur en regard de judaïsme, christianisme ou islam réactionnaire, ça montre que l'antagonisme fondamental est celui d'une position émancipatrice en regard d'une position réactive.
Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon.
Camilo Torres, prêtre colombien.
Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir.
Février 1965.
Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente.
Éric Hazan, on parlait de ce XXe siècle, effectivement, où le monde juif, ou des intellectuels juifs, ou des militants juifs se sont trouvés très souvent à la pointe des mouvements émancipateurs, on va dire ça comme ça. Est-ce que ces gens-là étaient aussi imprégnés et imbus qui vont se gré de la tradition religieuse juive?
Je pense pas, enfin... Non, je pense.
Et quel lien on fait entre cette tradition, cette culture, et puis voilà les mouvements révolutionnaires, émancipateurs qu'on a pu voir en Europe.
Je suis pas convaincu que les juifs qui étaient du côté de la révolution étaient des juifs qui venaient du côté de la religion. Je pense même d'ailleurs qu'à l'intérieur. Si tant est qu'il existait ici et là des choses qui ressemblaient à des communautés juives, je pense qu'ils étaient du côté de ceux qui rejetaient la religion. Je pense que... Il y a une très belle formule dans le livre de Segré, c'est l'opposition entre amour obéissant et compréhension autonome. Amour obéissant, c'est le respect de la loi divine. Mmh. Et la compréhension autonome, c'est la conduite d'une vie par la raison. Cet antagonisme-là, et évidemment on voit bien de quel côté se trouve Spinoza, et je pense que les révolutionnaires, disons Trotsky, je ne sais pas s'il avait eu une éducation religieuse, je ne sais pas bien, je ne connais pas bien son enfance et sa jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était vraiment, vraiment, vraiment du côté de la compréhension autonome. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ce qui est intéressant, Yvan Segré, dans ce bouquin et dans votre approche, on va venir à ces deux mots-là que vous utilisez, c'est juif et ouvrier, on va venir à ça. Mais si on dit le mot juif aujourd'hui, chez nous, on va penser Israël, tout de suite, et on va penser Shoah. On ne va pas penser à cette culture, à ces philosophes, au judaïsme. On ne va pas penser au judaïsme d'abord.
Une fois qu'une tradition de pensée prend la forme d'un État constitué, alors cet État constitué a pour effet d'écraser cette tradition de pensée. C'est vrai également à l'époque du socialisme soviétique, le mot communiste ne pouvait avoir d'autre écho que celui de cette force étatique constituée, qui était une force dogmatique. On revient à ces catégories-là parce que je crois qu'elles sont fondamentales. Le dogmatisme, on le trouve dans la religion, on le trouve aussi sous sa forme stalinienne, on le trouve de multiples manières. Mais c'est toujours une manière d'écraser une tradition vivante, une tradition émancipatrice, d'en faire un corps de doctrine inamovible qui très vite va s'associer à une forme de police. Bon, de manière plus ou moins violente, plus ou moins radicale dans l'histoire. Donc l'État d'Israël va avoir pour effet d'écraser et de faire de ces textes des fonctions gouvernementales, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la Shoah, c'est la question de ce traumatisme historique et qui va nourrir beaucoup de choses très complexes, très sinueuses. Ce qui est intéressant dans l'histoire de ce livre, c'est qu'avec Éric Hazan, nous étions partis donc, sur ce projet, au fond, de casser, en fait, le mot juif en introduisant cet antagonisme entre judaïsme émancipateur et judaïsme réactionnaire. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le christianisme, dans l'islam et ailleurs. Et nous avions le projet de travailler sur Spinoza parce que c'est une figure singulière très forte. Et dans le cadre de ce projet d'écriture, il s'est trouvé qu'il y a eu la sortie du livre de Jean-Claude Milner, Le sage trompeur, sur Spinoza, et dans lequel Jean-Claude Milner, au fond, soutenait la thèse à partir de l'analyse d'un texte de Spinoza que le sens de ce texte c'est une théorie de ce qu'il appelle la persécution parfaite des Juifs. C'est la doctrine qu'il prête à Spinoza. Que signifie la persécution parfaite des Juifs ? Eh bien, c'est faire disparaître les Juifs, ce qui était le programme nazi, avec cette nuance fondamentale, qui est de les faire disparaître sans mise à mort. Mais l'enjeu...
Et une élimination.
L'enjeu, c'est de faire disparaître les Juifs, mais sans mise à mort.
Franchement, Yvan Segret, est-ce que c'est pas là... Jean-Claude Milner est un grand intellectuel, connu depuis longtemps pour des tas de travaux, notamment sur le langage chomskien. C'est aussi un ami, un concurrent et un adversaire de Badiou, etc., depuis très longtemps. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui relève du délire et de la provocation que de considérer Spinoza comme la matrice du nazisme et de l'élimination, de la disparition des Juifs?
Alors, je crois qu'il y a quelque chose de symptomatique, effectivement. On pourrait dire qu'il y a comme une sorte de faux pas dans ce livre de Jean-Claude Milner, dans la mesure où c'est quelque chose qui pourrait dévoiler ce qui, jusqu'à maintenant, dans ses livres, demeurait voilé ou implicite. Alors, prêter à Spinoza cette doctrine, effectivement, relève du délire en termes d'exégèse du texte de Spinoza, à mon sens. Le point intéressant, c'est de se demander pourquoi Spinoza ? Pourquoi Jean-Claude Milner s'en prend à Spinoza ? Et le point qui est très intéressant également, je crois, c'est que contrairement à Benny Lévy, Emmanuel Levinas, ou Léo Strauss, ou Hermann Cohen, ou d'autres, qui vont s'en prendre à Spinoza finalement en réitérant l'accusation de trahison, c'est-à-dire de celui qui s'est émancipé d'un corps de doctrine. Lui, Milner prend les choses d'un autre biais. Pourquoi est-ce que Milner prête à Spinoza la volonté que les Juifs disparaissent ? Je crois que le fond de l'affaire, me semble-t-il, c'est que Jean-Claude Milner, au fond, est un sceptique. Et c'est un scepticisme qui est le bilan de ce qu'a été la période émancipatrice, où l'intellectualité était émancipatrice et dont lui-même a été un militant. Et son bilan à lui, me semble-t-il, c'est le suivant. C'est de dire, au fond, tout projet de transformation de la société dans le sens de la liberté mène au pire. Alors, la position sceptique, c'est de dire tout projet de transformation est voué à l'échec. Ça, c'est une position qu'il habite, à mon avis. Mais il va la radicaliser en disant non seulement elle est vouée à l'échec, mais elle est vouée à devenir criminel. Et ça, c'est en quelque sorte un lieu commun de l'intellectualité qui a commencé avec la nouvelle philosophie.
Oui, c'est ça. Et oui, donc c'est lui... déjà que toute révolte mène au goulag.
Voilà, exactement.
Une manif entre la République et la Bastille, c'est le début du goulag.
Exactement. Mmh. Donc ça, c'est la position sceptique fondamentale que lui va théoriser après dans ses ouvrages. Alors pourquoi les Juifs dans cette affaire ? Pourquoi les Juifs dans cette affaire ? Bah, tout simplement parce que, comme vous l'avez rappelé, Juifs, on pense à État Israël ou on pense à Shoah. Or, Shoah, c'est le crime dans son intensité maximale. Donc, en prêtant une volonté criminelle, du moins une conséquence nécessairement criminelle à un projet de transformation de société, si en plus c'est une conséquence criminelle et antisémite, alors le crime est présenté dans sa dimension maximale. Donc, la disqualification du projet de transformation sociale est absolue. C'est ça l'intérêt. Alors, ça, c'est la position sceptique de Milner. Et l'autre position, qui est la position dogmatique, elle consiste à dire, en quelque sorte, il y a tout projet de transformation de société est un mal parce que nous vivons dans le bien. Et le vivre dans le bien, c'est que la valeur absolue, c'est d'obéir à la loi telle qu'elle est instituée.
Mais ça répond tout à fait à l'expression conservateur. Ce qui correspond à ce que vous dites là, c'est conservateur.
La position dogmatique.
Voilà.
Oui.
Néo-conservateur au conservateur. Ce qui a frappé tout le monde, et vous aussi, bien évidemment, Éric Hazan et vous, Yvan Segret, c'était en 2007, dans une émission sur France Culture. Mon confrère, animateur de radio, Alain Finkielkraut, recevait Milner, et soudain, Milner dit « Ah mais Bourdieu est antisémite ». Il évoque les héritiers, le fameux travail de Bourdieu et de Passeron, bien connu, et il dit « Ce bouquin est un livre antisémite parce que les héritiers, ce sont les Juifs. »
À mes yeux, l'expression de génération en génération...
Jean-Claude Milner, linguiste et philosophe...
...concerne une transmission où la génération transmet à la suivante ce qu'elle n'a pas.
France Culture...
Vous raisonnez, je veux bien que ce soit par référence à Bourdieu.
13 janvier 2007.
J'ai ma thèse sur ce que veut dire héritier chez Bourdieu. Les héritiers, c'est les Juifs.
Vous croyez ?
Je crois que c'est un livre antisémite.
Ah bon ? Oh là là !
Mais...
Oh là là ! Écoutez, comme vous le dites très, 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 très brutalement, et peut-être faudra-t-il consacrer une autre émission à cette question, à cette bon, question-là. Vous nous plongez dans une certaine...
Je laisse de côté oui, oui. ce point, mais la relation à l'héritage m'intéresse, parce que transmettre un héritage est transmettre ce qu'on a.
Alors ça a été évidemment une surprise générale et un scandale. Est-ce que c'est pas le fait d'un homme, d'un seul penseur qui, en vieillissant, vieillit mal, disons, et va de provocation en provocation ? Est-ce que c'est symptomatique d'une époque, d'un temps, d'un courant ? Qu'est-ce que ça révèle ?
Ouais, alors cette anecdote, elle est très intéressante. Simplement, je fais une petite nuance, c'est que lors de cette émission, c'est pas soudainement que Milner en est venu à qualifier le livre de Bourdieu et Passeron, le livre antisémite. C'est pas soudainement dans la mesure où juste auparavant, Alain Finkielkraut est parti sur une diatribe contre le livre de Bourdieu et Passeron en disant que Bourdieu et Passeron voulaient, ce livre s'appelle Les Héritiers, c'est un travail sur la manière dont l'école reconduit les inégalités. Bon. Mmh. Les héritiers, c'est ceux qui, par héritage, finalement un héritage symbolique, vont avoir des atouts que n'ont pas les autres et comment l'école va perpétuer ces inégalités. Et là-dessus, Finkielkraut part sur une violente diatribe contre Bourdieu et Passeron en disant en gros que Bourdieu et Passeron, ils veulent supprimer les héritiers, ils ont une haine des héritiers. Et là-dessus, Milner prend la balle au bon, si je puis dire, et dit « j'ai ma thèse sur ce que signifient les héritiers chez Bourdieu et Passeron, les héritiers, ce sont les Juifs. Mmh. » Alors. Ce qui est intéressant, c'est que les héritiers, au fond, tels que l'entend la Finkielkraut, ce sont les bourgeois, c'est la classe dominante. Or, la sociologie, disons, progressiste ou émancipatrice chez Bourdieu, évidemment, comme projet de transformation sociale, un projet égalitaire. Et on voit comment ce projet égalitaire, on va le qualifier non pas simplement d'anti-bourgeois, qui est le sens, au fond, de la diatribe d'Alain Finkielkraut, mais Milner va ajouter à ce moment-là anti-juif. Alors ensuite, ça va faire scandale aussi. Pourquoi est-ce que ça fait scandale ? Parce que ce qui est intéressant chez Milner, c'est qu'il prend des risques. Mais le fond de l'affaire, c'est l'orientation, consiste à dire que tout projet de transformation de la société dans le sens de l'émancipation, de la liberté, de l'égalité, que ces projets-là sont non seulement voués à l'échec, mais ils sont voués à devenir criminels. Et l'intensité maximale du crime, c'est, aujourd'hui, du fait de la Shoah, d'être antisémite.
Yankel kvitte Westside Daisy, eh? Ben Crosstown and joined YMCA. Soon Bacon and Pork he began to enjoy. Took off his yarmulke, yid was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of a Das ago. A girl, a thing like that, boy. You know what's gonna happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot. Let me out of here, Eddie. I gotta go get a sandwich or something. I can't take this anymore.
On continue avec Yvan Segré et Eric Hazan. Eric Hazan, c'est l'éditeur qui est venu avec son auteur, Yvan Segré, qui publie Le manteau de Spinoza pour une éthique hors la loi. À quel endroit dans la vie, dans nos vies sociales, politiques, économiques, le travail de ces intellectuels se situe-t-il ? Quelle est la puissance d'influence d'un Spinoza dans son temps et aujourd'hui? En quoi est-ce que le choix de l'option d'aller vers la raison et d'échapper à l'emprise des dogmes religieux, quand est-ce que ça influence? À quel moment?
Quand est-ce que Rousseau a influencé Robespierre?
Voilà, Hazan est sur son terrain.
On peut dire que Robespierre, il disait le divin Jean-Jacques, même si il a appliqué les préceptes de Rousseau d'une façon particulière, mais ça l'a imprégné et Rousseau a vraiment influencé complètement la Révolution française, directement. Il connaissait Rousseau par cœur. Alors évidemment, je ne dis pas que l'insurrection qui vient va être menée exclusivement par des spinozistes, mais je pense que ces idées formidablement fécondes et tranchantes qu'il y a dans Spinoza sont des idées qui nous, quand je dis nous, disons les gens qui sont du côté de l'émancipation, qui ne cessent de nous inspirer.
Yvan Segré, donc on disait, il y a ces deux mots qui reviennent dans votre bouquin, c'est le mot juif et le mot ouvrier. Alors expliquez-nous le lien, quel rapport il peut y avoir entre ces deux mots.
Alors le rapport, ce n'est pas moi qui le mets en place, puisque je pars d'une citation de Jean-Claude Milner dans un livre sur mai 68, où il dit que le retour du nom juif a pour corollaire la disparition du nom ouvrier. Donc la mise en relation du nom juif NOM et du nom ouvrier, c'est mise en relation qui est posée par Jean-Claude Milner sous une forme antagonique. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre cette relation, de partir de Spinoza, de la Bible, de cheminer dans ces textes, pour montrer la solidarité entre ces deux noms, le nom ouvrier et le nom juif. Alors, de quel ordre est cette solidarité ? Selon moi, on peut le dire assez simplement. Au fond, l'opposition entre ouvrier et bourgeois a distingué des catégories sociales. On ne parle pas de catégories sociales, je parle de catégories conceptuelles. C'est au fond, le nom ouvrier, c'est l'idée qu'une société donnée est structurée par un rapport de domination entre des dominants et des dominés, et la volonté de transformer la société dans le sens d'une égalité et d'une liberté. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer que cette structure, elle est le point le plus fondamental de la tradition hébraïque la plus originaire, puisque l'événement biblique par excellence, c'est celui de la sortie d'Égypte, qui a pour signification la plus simple, le passage d'une société esclavagiste, où il y a des dominants et des dominés, à une société émancipée de cette inégalité. Et que donc, cette lecture des textes de la tradition nous permet de montrer la solidarité très forte qu'il y a entre le projet qui est au cœur du texte biblique et le projet qui est porté par le nom ouvrier, tel que l'emploie Milner, mais de manière antagonique, antithétique. Donc c'est cette solidarité-là qui m'intéresse, évidemment à condition d'entendre le nom juif. Il a deux sens, c'est-à-dire ou bien on peut l'entendre sous la forme d'un judaïsme réactionnaire ou sceptique du côté de Jean-Claude Milner, on peut l'entendre aussi sous la forme d'un judaïsme universaliste et émancipateur, tel que j'essaye de l'élaborer.
La fin de votre travail, c'est de réunir à nouveau le mot ouvrier et le mot juif, et de retrouver, sans nostalgie, à partir d'autres expériences et d'autres expériences intellectuelles, ce qu'a pu être, dans le passé, mais enfin dans notre XXe siècle, l'apport, j'allais dire, d'un judaïsme profane au progrès, aux démarches émancipatrices et aux mouvements évolutionnaires.
Oui, mon intérêt pour les textes de la tradition juive, il est double. D'une part, c'est l'intérêt de travailler des textes antiques pour retrouver des intuitions, des théories émancipatrices dans des contextes historiques, culturels, complètement différents. Ce qui nous parle encore dans ces textes écrits à des époques très différentes nous permettent d'apprécier ce qu'il y a d'invariant. Et notamment, un des invariants qui m'intéresse beaucoup, c'est cet antagonisme entre ce que j'appelle une affirmation, un rationalisme émancipateur et des formes de réaction idéologique. Or, ce qui m'intéresse donc dans mon travail, c'est de montrer cette tension-là à l'intérieur de ce qui est reconnu comme appartenant au judaïsme, entre un judaïsme émancipateur et un judaïsme, disons, réactionnaire. Les implications aujourd'hui, elles sont importantes, mais il se trouve que dans le dispositif idéologique réactionnaire, pour des raisons à la fois historiques, pour des raisons multiples, le judaïsme réactionnaire a une grande importance. Donc la réaffirmation d'un judaïsme émancipateur contre ce judaïsme réactionnaire est un enjeu idéologique important aujourd'hui.
Enfin, on en est réduit, Éric Hazan, toujours à l'interprétation et à la foi, quoi. En écoutant Yvan, je pensais à Ben Saïd, à Daniel Ben Saïd, qui est venu assez souvent dans cette émission et qui était un ami, mais il parlait de la foi, hein, Ben Saïd, et Dieu sait si en principe, Dieu sait, oui, si en principe il était loin de Dieu, mais il parlait souvent de la foi, et comment, lui, c'était pas Spinoza, ce vers qui il se tournait, qu'il étudiait soigneusement, c'était Marx. Mais enfin, là aussi, c'est des interprétations, c'est des exégèses, c'est...
Oui, alors, ce livre est dédié à la mémoire de Daniel Ben Saïd, qui était, je crois, un spinoziste, au moins en ce sens qu'il y avait chez Daniel Ben Saïd quelque chose que je retrouve chez Spinoza, qui est cette conjonction entre une infinie droiture et une infinie douceur. Et quelque chose que je retrouve dans les textes de Spinoza, où à la fois l'éthique démontrée de manière géométrique, c'est la droiture dans toute sa splendeur, et en même temps une infinie douceur. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré chez Daniel Ben Saïd. Et puis aussi, je crois, deux rapprochements importants à la fois entre Ben Saïd et Spinoza et à la fois entre Marx et Spinoza, c'est au fond ce que j'appellerais un rationalisme émancipateur. Donc oui, il y avait un rapport. Alors la question de la foi, oui, si on l'oppose à la religion. C'est-à-dire la religion comme figure dogmatique, un corps de doctrine constitué. La foi, c'est au fond la conviction poursuivie qu'il y a une nécessité de mouvement et une nécessité de mouvement vers le bien. Je dirais finalement, de manière un peu schématique, que le dogmatique, c'est celui qui dit il ne faut rien bouger parce que tout est bien. Le sceptique, c'est celui qui dit tout mouvement, c'est un mouvement vers le pire. Et la position alors de la foi, si on veut le dire en termes de foi, mais je dirais celle d'un rationalisme affirmatif et émancipateur, c'est qu'il y a une nécessité de mouvement. Nous sommes dans la nécessité du mouvement, et la question est de savoir si ça va être un mouvement réussi ou un mouvement raté.
Merci. Il vous reste à lire Le Manteau de Spinoza, le bouquin d'Yvan Segré, pour une éthique hors la loi. Ça sort chez La Fabrique, chez Eric Hazan. Je vous remercie tous les deux. Je rappelle un bouquin d'Yvan Segré, donc publié en 2009, La réaction philosémite, qui était passionnant. Vous pouvez réécouter l'émission qu'on avait faite à ce sujet sur là-bas.org, là-bas.org. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter. Et vous pouvez aussi faire un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Bruno Poncelet, Alexandre Abergel. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On attend vos messages. Et amis des repères de Là-bas si j'y suis, s'il vous plaît, soyez brefs, parce qu'on a peu de temps pour les messages, vous le savez, en début d'heure. Désormais, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. À 15h pile poil demain, je vous laisse pour l'instant. Je regarde la pendule, il faut que j'arrête à 48. Voilà, dans l'immédiat, je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Et dimanche, c'est les élections municipales. Vous allez voter ou vous allez à la pêche?
Alors, dimanche, je vais aller à la pêche. Ah. Je vais aller à la pêche, ouais. Parce que y a pas grand chose à voter, là.
C'est vrai?
Ouais, c'est pas... Chacun sa vision des choses, mais je garderai pour moi mon opinion politique, voilà.
Mais ça veut dire que si vous n'allez pas voter, vous laissez les autres décider pour vous, quoi.
Ouais, de toute manière, c'est blanc bonnet blanc, quoi. Voilà, mon avis, c'est mon avis, voilà.
Et vous avez voté au présidentiel là, en 2012, vous êtes allé voter ou vous êtes allé à la pêche?
J'ai même pas ma carte d'électeur, pour vous dire.
Ah oui, d'accord.
Voilà, quoi.
Vous êtes là pour la pêche ou pour les élections?
Non, mais je suis là pour tout, pour la vie, moi.
Il est journaliste, il a raison, quoi. Vous êtes qui, France Inter?
Bonjour à tous et bienvenue au Salon de la pêche sportive. Est-ce que, moi j'ai l'image du pêcheur assis sur son petit pliant au bord du lac, complètement calme, et puis qui est là...
Par contre, je ne connaissais rien, la pêche, quoi. Ah ouais, ça se voit, quoi. Non, c'est vrai, quoi.
Vous avez raison, hein. c'est pour ça.
Bah oui, mais j'y vois bien que vous ne connaissez rien. C'est pour ça qu'en fait, j'essaye de m'adapter à vos questions que vous ne connaissez pas grand-chose, à essayer de trouver les justes mots pour... quoi.
Mais ça, c'est gentil. Je vous remercie d'essayer de vous adapter.
Je m'adapte aux questions que vous me posez parce que c'est pas... quoi.
Mais si je m'y connaissais, qu'est-ce que je devrais vous poser comme question?
Ah là, vous me piégez, quoi. Là, vous me prenez de vitesse, quoi. Parce que j'entends penser à plein de choses à la fois, quoi. Mais bon, c'est votre métier, vous êtes journaliste, quoi.
Non, mais mon métier, moi, c'est juste...
Vous avez compris, quoi. C'est...
Non, mais je m'attendais pas à ce que vous me disiez. Je m'adapte à vos questions. En gros, je m'adapte à vos questions cons parce que les vraies questions, vous les posez pas. Donc, je me dis, eh ben, c'est intéressant. J'ai envie de savoir. Effectivement, je reconnais que je n'ai jamais pêché. Donc, j'ai cette image qui me fait toujours rêver du pêcheur au bord du lac. Et il y a un côté méditatif qui me plaît. Cette onde qui bouge doucement, ou ce paysage comme ça.
Mais ça fait partie de la pêche, je veux dire. Des moments de solitude en pleine nature comme ça, c'est ce qui fait le charme, quoi. Ben, bien sûr. Ben, quand ça mord pas, ce qui se passe, c'est que tu prends un peu de temps, tu t'entraînes à lancer, quoi. Tu t'entraînes ta double traction, tu t'entraînes... Écoute, rapport qualité-prix, c'est une bonne canne chez Spey. Moi, je pêche beaucoup les grosses carpes avec, quoi. La réserve de puissance qui est pas mal. Et puis,
vous venez de l'acheter, votre canne à pêche?
Non.
Il essaye de me la vendre, en fait. Il essaye de me la vendre, ouais.
J'essaye de la vendre.
Il me l'a fait essayer. Moi, je suis pas... Il n'y a pas si longtemps que ça, je pêche à la mouche. Mais en fait, j'essaie de me faire conseiller, justement, pour avoir une évolution dans ma technique de pêche en ayant une canne... Une canne adaptée à ma façon de pêcher, quoi.
Alors regarde, je te refais avoir juste un dernier coup. Ouais. Regarde, faut que tu la laisses bien charger derrière. Regarde, tu la laisses bien tendre derrière.
Et pourquoi vous la vendez?
Je te donne un coup de main à vendre de canne à pêche, voilà.
D'accord. Et alors ça vaut combien cette canne à pêche, là?
Alors c'est une canne qui coûte 400 euros en prix public. Il y a une réduction par rapport au salon, voilà.
Et c'est votre métier?
Non, je suis paysagiste.
Et vous, quel est votre plaisir dans la pêche?
Mon plaisir à moi, c'est d'attraper des gros poissons avec des cannes pas adaptées.
Ah oui.
Voilà, pour avoir une jouissance à la mise maxi.
Parce que ça relève de l'exploit, quoi. Vous n'avez pas la bonne canne, mais vous pêchez le bon poisson. Et...
Ça relève de la sensation, quoi. Moi, je pêche depuis tout petit, et puis au bout d'un moment, on recherche de nouvelles sensations en permanence. C'est comme tout, quoi. Il y a le pêcheur, pêcheur et pêcheur. Et puis quand tu arrives à un stade d'extrême, ben, tu cherches. C'est comme faire l'amour dans le noir, après tu peux plus, quoi. Je veux dire, quand tu es habitué à faire l'amour dans plein jour et faire des trucs un peu. Je veux dire, tu peux plus refaire l'amour dans le noir, quoi.
Ah oui.
Vous avez compris? Ben, c'est le même délire, quoi. Voilà.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est la même jouissance.
Voilà.
Ah oui. Et alors, justement, décrivez-moi votre coin de pêche. Ça ressemble à quoi?
Ah, mais je vais vous traumatiser si je vous parle de pêche, là, par contre.
Pourquoi? C'est très sexuel?
Non, je... Mon coin de pêche, ça ressemble... J'ai la chance d'habiter une belle région.
Quelle région?
J'habite sur les bords du Léman, à Thonon-les-Bains.
Ah oui.
Voilà, quoi. Où il y a quand même... Il y a de quoi faire. Il y a des eaux vives et puis il y a le lac Léman, quoi. Où il y a pas mal d'espèces de poissons, de la ferra, du brochet, de la truite.
Et pourquoi vous allez me traumatiser, dites-moi?
Non, je disais comme ça, quoi, parce que...
Parce que c'est un petit paradis.
C'est un petit paradis, voilà, quoi. Par rapport, bon, c'est vrai que c'est... Au jour d'aujourd'hui, c'est un luxe de pouvoir pêcher dans des eaux vives, quoi. En sachant que partout ailleurs en France, les rivières sont polluées, quoi.
Vous mangez du poisson?
Alors moi j'aime bien me faire plaisir quand j'attrape une jolie truite, ouais, la manger le soir même au beurre, quoi, toute fraîche. Ouais, ça fait partie de la pêche, quoi.
Vous préférez faire l'amour ou faire la pêche?
Les deux.
Eh ben, en tout cas, je vous remercie et si j'ai un conseil à vous donner, allez voter.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Voilà. Ah, je vous ai tué, hein, le coup de l'amour dans le noir, quoi.
Thank you. pense pas à la Maïf pour réduire son budget familial. Pourtant, moi, par exemple, j'ai gagné 26 000 euros sur le crédit de la maison et 9 000 sur l'achat de la voiture. C'est pas rien. Et ça, sans compter les assurances superflues que j'ai résiliées.
Maïf Famille s'attaque à ce qui pèse vraiment dans votre budget. Rendez-vous sur maif-famille.fr. Maïf, assureur militant. Économie moyenne pour une renégociation de crédit par Crédit Immobilier Direct, intermédiaire inscrit à l'ORIAS et pour un monospace auprès d'Aramis et Auto-IES.
Tu savais que les éoliennes, elles arrêtaient pas de grandir?
C'est dingue ça, c'est pas possible!
Oui monsieur, les éoliennes, elles ont un développement durable.
Et la Matmut les assure même si elles poussent partout!
Avec son nouveau contrat habitation, la Matmut, elle assure les équipements de développement durable!
Selon formule souscrite et dans les conditions définies au contrat.
France Inter, partenaire de la 17e édition du festival Les Femmes s'en mêlent, du 18 mars au 4 avril. Le festival célèbre la scène musicale féminine indépendante dans toute la France. Découverte et exclusivité avec Cults, Dominique Young Unique, Liz Green, Emily Jane White, Carole Conca, Anna Aron, Nucci, Dulana Barwick et de nombreux autres artistes. Retrouvez le festival Les Femmes s'en mêlent dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles du 21 au 24 mars. L'Argentine et Shanghai sont les invités de cette 34e édition. Venez assister à de nombreuses rencontres et démonstrations autour des livres de cuisine. Découvrez un nouvel espace dédié au savoir et à la connaissance et visitez plusieurs expositions de bandes dessinées exceptionnelles. Du 21 au 24 mars, profitez de la plus belle offre de livres pendant 4 jours avec de grands auteurs en signature. Et retrouvez à cette occasion de nombreuses émissions de France Inter en public du salon. Renseignements sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Pierrick Bonneau.
La Cour de cassation confirme la condamnation pénale de Jérôme Kerviel. 3 ans de prison ferme pour l'ex-trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel est donc définitivement condamné pour abus de confiance, faux usage de faux et introduction frauduleuse de données dans un système informatique. Mais un nouveau procès devra avoir lieu pour d'éventuels dommages et intérêts, car si la plus haute juridiction de l'État a confirmé sa peine au pénal, elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel l'obligeant à rembourser sa perte record en 2008, près de 5 millions. D'euros. Jean-François Copé demande de la retenue et regrette l'atmosphère passionnée autour de ce qu'il appelle des bouts de révélation sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. À la justice de faire son travail et à elle seule, dit-il. Sur ce point au moins, le patron de l'UMP est d'accord avec le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, qui juge hallucinant et attristant les propos rapportés par Mediapart. Le site a publié hier la teneur de 7 écoutes de conversation entre l'ancien président et son avocat Thierry Herzog. On n'y apprend rien de nouveau, mais ces extraits confirment notamment que les deux hommes ont bien obtenu des renseignements du haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, renseignements sur les affaires visant l'ancien chef de l'État. À la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a souligné l'extrême gravité des accusations et des soupçons pesant sur Nicolas Sarkozy. Des dégradations qui mettent tout le monde d'accord. À 4 jours du premier tour des municipales, des inscriptions ont été portées à l'entrée de la basilique du Sacré-Cœur dans le 18e arrondissement de Paris. Ni Dieu, ni maître, ni État, abat toute autorité, feu aux chapelles. Voilà ce qu'on pouvait lire à l'aube sur les portes de la basilique. C'est un des monuments les plus visités de la capitale. Condamnation unanime des élus et candidats socialistes et Front National qui évoquent une profanation et appellent à des poursuites judiciaires. Condamnation également, bien sûr, de l'UMP. Le déficit de la sécurité sociale, moins important que prévu en 2013. Hors fonds de solidarité vieillesse, il atteint 12 500 millions d'euros, moins que les 13 300 millions prévus. Annonce de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Elle évoque le fruit des efforts réalisés. Énième sommet des dirigeants européens à Bruxelles demain et après-demain pour discuter de nouvelles sanctions après le rattachement de la Crimée à la Russie. Mais il est très peu probable que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union décident de sanctions économiques qui porteraient aussi atteinte à leurs intérêts. Londres menace la Russie d'une exclusion permanente du G8 si Moscou poursuit son action en Ukraine. La Russie est membre du groupe des nations les plus industrialisées depuis 2002. Mais pas sûr que la menace suffise à faire reculer Vladimir Poutine en Crimée. Les forces russes ont pris le contrôle de 2 bases militaires ukrainiennes aujourd'hui et le processus d'annexion de la Crimée se poursuit à Moscou. La Cour constitutionnelle russe a validé ce matin le rattachement de la péninsule à la Russie signé hier par Vladimir Poutine. Israël approuve la construction de 186 logements dans des colonies de Jérusalem-Est, des quartiers déjà occupés et annexés. C'est ce qu'indique ce matin un conseiller municipal d'opposition. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rappelé à plusieurs reprises qu'il exigeait un gel de la colonisation pour prolonger les négociations avec Israël au-delà de l'échéance de fin avril.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Midou au Studio 105, carte blanche à François and the Atlas Mountains.
Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là?
François invite le groupe Apatride de Kate Stables, This is the Kit.
What is this? This gloominess is so...
Et le Malien Abou Diara.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
À 16h04 sur Inter. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Pierrick Bonneau. On se retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous avons reçu un enregistrement du Met, c'est-à-dire le Metropolitan Opera de New York, et il y a eu un très beau concert au Carnegie Hall de New York. Justement, le maître James Levine n'est pas dirigé depuis 2 ans et ça a été un énorme succès. Il y a eu beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, l'orchestre a joué de tout son cœur. On va entendre ça à travers l'Allegro Vivace de la 9e symphonie dite la grande, simplement pour la différencier d'une autre symphonie en ut majeur du même Schubert, et cette grande, elle est pleine de tonus et James Levine y va de très bon cœur. Ah, alors, de très bon cœur, mais ça ne démarre pas. Mais ça va démarrer peut-être, voilà. Non ? Oui ! Triomphe pour Schubert, sa 9e symphonie dite La Grande, pour l'orchestre du Met, Metropole.